Donc je vais essayer de faire le lien entre la crise écologique et la pauvreté, et donc les enjeux à partir de là plus concrets qui sont en train comment dire, les enjeux qui sont en train de se jouer au niveau des négociations climatiques. Je l'expliquerai, dans ces négociations climatiques, l'émergence, pour la première fois sans doute, des voix des pauvres. Des pauvres de la planète qui ont envie de se saisir de ces questions environnementales, de ces questions écologiques, parce qu'ils s'estiment absolument concernés. Alors préalablement, je voudrais rappeler que nous devons faire un effort bien souvent pour penser la question environnementale, la question écologique avec la question sociale. Généralement, quand on parle de pauvreté, cela renvoie à ce qu'on appelle traditionnellement la question sociale, c'est-à-dire un système qui est fondé sur l'idée d'abondance et qui, en même temps, de croissance infinie d'abondance, et qui, en même temps, laisse sur le côté des personnes de plus en plus nombreuses, les pauvres qui n'arrivent pas à s'insérer, qui ne peuvent pas s'insérer dans ce type de société. Et donc, pendant très très longtemps, les forces progressistes depuis le 19e siècle, je dirais, progressistes entre guillemets, avec tout ce qu'on peut mettre dedans, ces forces-là ont privilégié la question sociale en se disant, il faut d'abord résoudre la question sociale et après, on pourra résoudre les autres grandes questions des sociétés. Mais il faut d'abord résoudre les problèmes de pauvreté, de répartition des richesses, voire de propriété, par exemple, ça a été un thème extrêmement important, et toutes ces questions-là, écologiques, environnementales, sont quand même secondaires par rapport à cette question sociale centrale qu'est la pauvreté. Et donc, résoudre d'abord la pauvreté. Et je vais essayer de montrer, en fait, dans mon exposé, qu'il n'est pas possible de résoudre la pauvreté aujourd'hui sans résoudre la question écologique, la question environnementale, et que donc ces deux aspects sont indissociablement liés et qu'il serait, comment dire, dramatique aujourd'hui de continuer à les dissocier. D'autant plus que le fait de dire il faut d'abord résoudre le problème de la pauvreté, et ensuite on s'occupera des autres problèmes, laisse penser et alimente un type de croyance qui consiste à dire en fait, les questions environnementales, c'est un problème de riches. C'est un problème de riches dans les pays riches et c'est un problème de pays riches. Parce que quand il s'agit de remplir sa gamelle, eh bien, on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Or, aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'il est urgent de regarder ce qu'il y a dedans. Et que ce sont justement souvent les plus défavorisés de la planète et de nos sociétés qui s'empoisonnent avec ce qu'il y a dans les assiettes aujourd'hui. Donc ça, j'y reviendrai largement tout à l'heure, sur les inégalités sociales qui sont en fait renforcées par des inégalités de type écologique, de type environnemental. Donc, on verra, l'écologie, ce n'est pas un problème de riches. Et c'est ce qui est intéressant à Copenhague et dont je reparlerai, c'est qu'il va apparaître que l'écologie, c'est un problème de pauvres, d'abord. Parce que les riches peuvent faire mine de se préoccuper, bien entendu qu'ils sont préoccupés de leur santé, etc., etc. Mais généralement, leur situation fait qu'ils peuvent malgré tout se construire un monde à peu près protégé dans un monde qui est en train de se dégrader totalement. Donc ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. D'autre part, il y a l'idée qui est difficile aussi comment dire, à démasquer, l'idée selon laquelle ce serait par la croissance économique, par le développement économique d'abord, qu'on réglerait le problème écologique. C'est-à-dire, il faut stimuler la croissance pour stimuler le développement. Le développement engendrera moins de pauvreté, et quand il y aura moins de pauvreté, on pourra se préoccuper des questions écologiques. Ça, c'est le discours de l'Organisation mondiale du commerce. C'est le discours de la plupart des grandes organisations internationales. Il faut d'abord développer l'économie. Il faut d'abord développer la croissance, poursuivre la croissance. Il faut poursuivre le libre-échange. Il faut poursuivre cette libéralisation des échanges au niveau international, nous dit l'Organisation mondiale du commerce, parce que ainsi, on va produire plus, on résoudra la pauvreté et on résoudra après les questions environnementales. Il y a sous ce discours l'idée que non seulement l'écologie est un problème de riches, mais qu'en plus ce sont les pauvres qui polluent. C'est une idée qui est très prégnante, l'idée que les pauvres polluent, notamment les pays du Sud. Ils polluent plus, ils pollueraient plus que les pays riches parce qu'ils n'ont pas les technologies adaptées, ils n'ont pas les fameuses technologies vertes dont nous disposons aujourd'hui, ils ne savent pas trier les déchets, ils font n'importe quoi, ils ont des populations extrêmement importantes qui augmentent considérablement, qui font de la pression sur les ressources très fortes, ils n'utilisent pas les méthodes très productives dans l'agriculture, etc., etc. Donc il y a l'idée qui est très largement partagée et qui est sous-jacente à beaucoup de raisonnements, c'est que finalement, c'est quand même les pauvres qui polluent. Et que donc il faut d'abord résoudre la pauvreté pour pouvoir résoudre les questions environnementales. Ça, c'est encore comment dire, quelque chose qui habite notre imaginaire, qui habite nos représentations. Ceci, aujourd'hui, tend. Je dis bien, ça habite nos représentations, mais aujourd'hui, c'est très sérieusement contesté. C'est très sérieusement contesté pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu le rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental des experts sur le climat, c'est-à-dire plus de 2000 scientifiques qui, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, donc coordonnent leurs recherches sur les origines de la crise climatique en particulier, qui est quand même aujourd'hui le moment extrêmement important de la crise écologique. Et si on lit les rapports du GIEC, le dernier rapport du GIEC de 2007, le dernier rapport complet du GIEC, on le trouve sur Internet en français, il y a des résumés, on se rend compte que les pays pauvres, où domine la pauvreté, sont les pays qui n'ont pas contribué, ou très peu, au dérèglement climatique que nous avons aujourd'hui. Selon les calculs, il y a des fourchettes, hein, entre 70% et 90% des gaz à effet de serre qui se sont accumulés dans l'atmosphère et qui sont responsables du changement climatique ont été émis par les pays industrialisés. Ce n'est pas le Bangladesh, ce n'est pas des pays d'Afrique, etc. Or, ce sont au contraire les pays pauvres, où domine la pauvreté, qui ont des problèmes de pauvreté absolument gigantesques à gérer, qui vont subir, qui sont en première ligne concernant les conséquences des changements climatiques. Du fait des sécheresses, du fait des inondations, du fait que c'est là que se trouvent les populations mondiales qui vivent, qui dépendent le plus des écosystèmes, le plus directement des écosystèmes, et dès lors que les écosystèmes se détraquent, évidemment, ce sont ces populations qui sont véritablement les plus touchées. Donc, ce rapport du GIEC modifie, si vous voulez, les représentations que nous avons, et qu'on commence à se dire, mais l'écologie, l'environnement, la crise climatique, ce n'est pas une lubie des pays riches qui tout à coup sont soucieux de leur santé, ou de ce qu'ils mangent, c'est aussi fondamentalement un problème des pays pauvres. Et des populations pauvres dans les pays pauvres, qui sont vraiment les plus exposées. Deuxième chose qui fait bouger un petit peu les consciences, c'est le rapport du programme des Nations Unies pour le développement de 2007-2008. Lui aussi, il est consultable sur Internet, en français. Et ce rapport est absolument terrible, puisqu'il étudie les conséquences sociales de la crise écologique et des changements climatiques, avec des chiffres qui font froid dans le dos. Je vous en donne quelques-uns. 600 millions de personnes seront atteintes de malnutrition, en plus de celle qu'il y a aujourd'hui, due aux effets du changement climatique, due aux effets de sécheresse, de transformation de l'agriculture, d'incapacité pour certaines sociétés, je pense au Bangladesh, dont les terres les plus fertiles commencent à être inondées du fait de l'augmentation du niveau des océans, et où on ne peut plus cultiver le riz qui est la nourriture vivrière de base. Donc selon le PNUD, par rapport aux chiffres, aux milliards déjà de malnutris qu'il y a aujourd'hui, s'ajouterait, si rien n'est fait, d'ici 2050, plus de 600 millions de personnes du fait des dérèglements climatiques. S'ajouterait à ce qui existe déjà. De même, selon le PNUD, ce serait 332 millions de personnes qui vivent dans des zones exposées, dans les pays du Sud essentiellement, qui seraient menacées de déplacement, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés climatiques. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a à peu près déjà aujourd'hui 25 millions. Ce sont des personnes sans droit, sans aucun droit, bon bien sûr sans papier, sans droit, mais même ils sont privés d'un droit fondamental, c'est le droit d'avoir un sol. C'est pas, même pas le droit d'être propriétaire du sol, parce que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas, mais le droit d'avoir un sol où se poser, une terre à laquelle ils peuvent dire « j'appartiens ». Le drame du réfugié climatique, c'est ça. Hein, ce sont des personnes, c'est le summum du déplacement. Hein, c'est que non seulement, bien sûr, ils ont tous les problèmes des réfugiés qu'on connaît, les problèmes des droits, des papiers, etc. Mais en plus, ils ne sont pas reconnus, que leur sol n'existe plus, leur attache à la terre n'existe plus. Selon l'ONU, donc, selon le PNUD, 332 millions d'ici 2050. 400 millions de personnes supplémentaires seraient atteintes de paludisme. Hein, puisque ces phénomènes de réchauffement engendreraient des phénomènes aussi de diffusion de ce type de maladies, y compris d'ailleurs dans nos pays. Hein, y compris dans nos pays, il y aurait certaines maladies qui étaient vraiment caractéristiques des pays du Sud, hein, qui arriveraient y compris dans nos propres sociétés du Nord. Bon, je ne vais pas vous faire la litanie de tous ces chiffres-là. De même, l'Organisation mondiale de la santé, qui est généralement extrêmement prudente, hein, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport en 2009, et selon les estimations de l'OMS, 150 000 personnes meurent tous les ans des conséquences des changements climatiques sur la santé. Et pas seulement dans les pays du Sud. Je voudrais rappeler, hein, la canicule en France, il y a quelques années, a été extrêmement caractéristique de l'impact des crises environnementales sur les sociétés. Ce sont les personnes âgées pauvres qui ont été en première ligne, celles qui vivaient seules, le plus souvent isolées, l'isolement est un facteur de pauvreté extrêmement important, celles qui vivaient aussi dans des maisons de retraite, qui sont extrêmement précaires, souvent au niveau des moyens, du personnel, etc. Il y a eu, on estime à peu près quand même, 15 000 personnes qui sont mortes cet été-là, et essentiellement dans des milieux sociaux extrêmement pauvres. Donc là, on voit bien le lien. Or, la canicule, ces phénomènes caniculaires sont liés au phénomène du changement climatique. Donc on voit les dégâts que ça peut faire très concrètement. Je prends un autre exemple, là c'est pas la santé, mais qui est en train de devenir emblématique, c'est ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans avec l'ouragan Katrina. Des ouragans, ce n'est pas nouveau, il y en a toujours eu, hein, des ouragans, c'est pas un phénomène nouveau, sauf que, selon les statistiques du GIEC, hein, du groupe donc des scientifiques, ces ouragans deviennent de plus en plus fréquents, et leur intensité est de plus en plus forte. L'ouragan Katrina, qui est dû à des tas de choses, qui est dû à ce phénomène de multiplication des ouragans, mais qui est dû aussi au fait qu'il y a eu une incurie au niveau de la ville et de l'État pour l'entretien des digues, etc. etc. C'était la période néolibérale à son maximum, c'est-à-dire désengagement de l'État, on n'entretient plus tout ce qui est services publics, équipements publics, etc. Donc les digues qui protégeaient la Nouvelle-Orléans n'avaient pas été entretenues, ont tout absolument cédé. Mais que s'est-il passé à la Nouvelle-Orléans? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les riches, les plus riches ont pu partir, ont pu s'échapper de la Nouvelle-Orléans à temps, sont restés dans la ville, n'ont pas pu s'échapper à temps parce qu'ils n'avaient pas de lieu où aller. Les populations les plus pauvres de la Nouvelle-Orléans, et rappelez-vous, beaucoup d'entre nous ont été saisis de voir les images de la première puissance mondiale, avec une pauvreté aussi importante que beaucoup ne pouvaient pas imaginer que pouvant exister aux États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, que se passe-t-il à la Nouvelle-Orléans? C'est que les pauvres sont chassés quasiment. On est en train de reconstruire la Nouvelle-Orléans, de vouloir en faire une espèce de ville un peu new look, propre, etc., etc. Et les pauvres qui sont restés parce qu'ils n'ont pas pu aller ailleurs, qui ont continué à habiter la Nouvelle-Orléans dans des quartiers qui ne sont pas des quartiers résidentiels, sont aujourd'hui progressivement éjectés de leurs appartements parce qu'on veut reconstruire, mais on ne veut pas reconstruire pour eux. On veut reconstruire pour que les populations qui sont parties puissent revenir. Donc voyez-vous, il y a un lien très fort entre les dégâts que provoque la crise environnementale aujourd'hui et les phénomènes de précarité, de pauvreté. C'est clairement les personnes les plus précaires, les plus fragilisées qui subissent en premier lieu les effets de la crise environnementale. Et enfin, je voulais vous citer un rapport interministériel d'avril 2008, et il y en a un autre qui vient de sortir septembre 2009 sur les conséquences des changements climatiques en France. C'est très intéressant, on le trouve sur Internet aussi. Et où, dans lequel on voit bien qu'il y a des différences d'abord géographiques, toutes les régions ne sont pas touchées de la même manière, et toutes les catégories sociales ne sont pas touchées de la même manière. Donc, il est absolument urgent de s'emparer de ces questions-là, parce que bon, la crise écologique, elle est là, la crise climatique est là, les effets sont déjà là, et les pauvres vont être quand même, les plus pauvres vont être ceux qui seront les premiers désignés. Donc, tous ces rapports tendent un peu à modifier la représentation qu'on se fait. On se dit, mais l'écologie, ce n'est pas qu'un problème de riches, c'est un problème de pauvres, fondamentalement. Il faut l'appréhender comme tel. Et il y a autre chose. Il y a de plus en plus aussi l'idée quand même qui se diffuse, c'est que ce ne sont pas les pauvres qui polluent, que ce sont les riches qui polluent. Et ça, le rapport de l'ONU, du programme des Nations Unies pour le développement, est très très intéressant, 2007-2008, puisqu'il montre justement dans ce rapport les responsabilités concernant la pollution selon le niveau de développement des pays. Je vous donne juste deux ou trois chiffres, pour ne pas trop vous abreuver de chiffres. Si je prends, parce que je veux le lier aux questions du climat, si je prends la quantité de CO2, de gaz carbonique, émise par habitant dans le monde. Si je prends les États-Unis, aux États-Unis, en moyenne, un habitant états-unien émet tous les ans 20 tonnes de CO2 par ses consommations, ses transports, etc. 20 tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère et qui concourent donc au dérèglement environnemental et climatique. La Chine, nous dit-on, et c'est vrai, est aujourd'hui devenue la première puissance polluante en termes de gaz à effet de serre. C'est vrai en masse. Si je le rapporte au nombre d'habitants chinois, la Chine par habitant émet 3,6 tonnes de CO2 par habitant. L'Union européenne, en gros, c'est autour de 9 tonnes de CO2 par habitant. C'est différent selon les pays. Je vous donne quelques pays d'Afrique très marquants. L'Éthiopie, 0,01 tonnes de CO2 par habitant. Et ils vont être en première ligne sur les conséquences, sur les sécheresses. Bangladesh, 0,1 tonnes de CO2 par habitant. Donc, quand on sous-entend que finalement, c'est les pauvres et qu'il faut que nous, pays riches, on aille leur montrer comment il faut faire pour devenir riches, pour devenir donc comme nous, que c'est ça la solution, qu'il faut développer les échanges, le libre-échange, etc., etc. Et donc nous diffusons l'idée de fait que finalement la pauvreté, ça fait de la pollution, eh bien nous devons quand même avoir ces chiffres en tête.